écrire dans la marge. Il y a Nolnambias, Daryla Vuto, Nathan Luce. Je commence à mêler les pieds avec vos pseudos là. Hein. Pourquoi des pseudos?
Ben, il y a un problème dans le tour de table, Michel.
Pourquoi il y a un problème?
Moi j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu fais. Je vais te dire à un moment donné.
Qui es-tu? On veut bien se décrypter, Michel.
J'ai failli.
On veut bien se décrypter, mais quand même.
Je vais répondre à vos questions aussi. Mais d'abord, pourquoi des pseudos?
Ah, d'accord.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi de prendre des pseudos?
Moi, c'est pas un hasard, parce que je travaillais à la radio et à un moment donné, enfin, je faisais des piges à la radio, mm-hmm. sur une émission culturelle. Il y avait quelqu'un qui avait déjà mon nom. Alors, pour qu'on ne dise pas que c'est un truc de famille, alors que la radio ne nous appartient pas, on m'a demandé de prendre un pseudo. Et quand j'ai pris ce pseudo-là, ben, je suis tombé amoureux de lui, donc je l'ai gardé.
Ouais, c'est pas mal, moi, je pensais que c'était ton nom. Peut-être pour
ma femme. Ma femme, hein. On dit que derrière les grands hommes, il y a des grandes femmes. Oui. Bon, il y a une grande femme derrière moi qui m'a dit « Ton nom, ça passera pas. » En Heroic Fantasy, Sablon Dimitri, ça passe pas.
Pourquoi?
Elle m'a dit ça, la sonorité, ça... Il manque quelque chose.
Attends, je suis curieux. Elle porte ton nom, ta femme?
Non.
Elle est cohérente.
Elle me dit, ça fait pas assez heroic fantasy, ça fait pas assez roman d'aventure. Trouve quelque chose qui accroche. Et là, bah, on a réfléchi, puis j'ai regardé ma fille à côté, j'ai dit... elle va mettre son nom quelque part aussi. Donc, on a retourné les choses dans tous les sens et... Littéralement parlant, on a retourné les choses dans tous les sens qui a donné Iliac Nolbas.
Je crois que pour mon prochain livre, je vais utiliser un pseudo.
Ah
ouais. Ouais, peut-être le nom d'une femme, je sais pas.
Ok.
Et tu sais pourquoi?
Oui.
Pour que les gens se concentrent sur le bouquin, sur l'histoire et pas sur qui je suis. Parce que qui on est, ça peut ne pas plaire à quelqu'un. Ils peuvent décider, ah, mais ils sont pas game initiés. Et donc, ils vont pas prendre la peine de découvrir. Alors que si on retire ce qui les dérange. Et ils ont accès au texte, et il n'y a que le texte. Il n'y a rien bouddhiste ici, là, c'est le texte qui compte. Et rien que pour ça, et pour voir si ça change l'attitude des gens, parce que, soyons honnêtes, il y a plein de bouquins de qualité qui ne sont pas lus par le grand nombre, pour des raisons de marketing.
Ouais.
D'accord? Parce que les gens croient que c'est que parce qu'on est bon qu'on est connu, mais c'est faux. Moi, je connais une dame qui s'appelle Inge, aux États-Unis, asiatique, qui avait un best-seller. Mais son best-seller a été construit de toutes pièces par l'équipe marketing. Il y avait des comportements à avoir, il y avait des choses à faire, il y avait des trucs à mettre en place, des gens à contacter, des publicités à mettre dans tel, des gens à contacter. Enfin, vous comprenez, ça se construit, le succès. Et nous, on n'a pas accès à tout ça. Et même les maisons d'édition que nous avons ici n'ont pas forcément le bras assez long pour nous faire découvrir comme on voudrait. Et donc, de plus en plus, l'auteur doit être actif, un acteur de son succès, au-delà de l'écriture. Hein,
ah oui.
Parce que ça devient du marketing, on devient des auteurs-preneurs. Donc ta femme a été super.
Ah oui, non, elle est géniale. Mais ce qui est très amusant aussi en même temps, si on y regarde bien, bon, effectivement, il y a des lecteurs qui s'intéressent à l'auteur. Mm-hmm. Qui il est, comment il s'appelle, ce qu'il fait, où est-ce qu'il vit, combien d'enfants il a, s'il a des chiens, des poules et des cochons. Mais à aucun moment ils ont conscience que celui qui écrit, c'est pas celui qu'on est tous les jours. Faut dire ce qu'on est. Moi, quand j'écris, métaphoriquement parlant, c'est nu. On est à nu.
Ouais.
Je peux pas être
ah ouais,
à nu.
Ah ouais, quand
t'écris,
t'es à nu. Sinon, c'est pas bon.
Je peux pas être à nu dans la vie de tous les jours. C'est pas possible. Donc, effectivement, celui que je suis quand j'écris, c'est pas du tout celui que je suis dans la vie de tous les jours.
Oui, parce qu'on te voit, donc tu te caches.
Mais c'est beaucoup de lecteurs sont persuadés que les deux
sont les mêmes. Moi j'ai fréquenté enfin quelques auteurs quand j'étais prof de fac. Et quand je les ai connus, j'ai plus réussi à lire leurs livres. Il a fallu plusieurs années avant que je recommence à les lire. Parce que quelqu'un d'ordinaire, c'était une célébrité, mais c'était des gens qui ont des réflexes comme moi, comme tout le monde, qui mangent avec leurs mains ou avec une fourchette, comme tout le monde, qui pètent, qui vont baisser, comme tout le monde.
C'est ça.
Et ça, le mythe est tombé et j'arrivais plus à acheter.
C'est sacralisé.
Mieux vaut ne pas connaître la personne.
C'est ça.
Ça, je peux continuer.
C'est pour ça que j'ai beaucoup d'artistes, chanteurs, musiciens que j'adore, que j'écoute en boucle, en boucle, en boucle. Mais tu sais qu'il a fait... Non, je veux pas savoir. Tu sais qu'il vit à... Non, je veux pas savoir où il vit. Ouais. Laisse-moi écouter sa musique. Ouais. Le personnage ne m'intéresse pas. C'est son œuvre, moi, qui m'intéresse.
Arriver à dissocier l'homme de...
C'est ça, c'est ça.
Il y a de l'œuvre.
Voilà, c'est ça, surtout.
Parce que ici, en Guadeloupe, je suis désolé, mais je vais lancer un pavé dans la mare. Certains auteurs écrivent quelques livres, ils deviennent arrogants et stupides. Et du coup, on n'a plus tellement envie de les découvrir parce que ils nous font nous sentir mal parce qu'ils ne sont pas ouverts, ils ne sont pas accessibles. Et ça, c'est une grave erreur à commettre. Vous qui voulez écrire, restez humble, restez approchable.
Est-ce que c'est pas une manière de se protéger? C'est un personnage, on sait, enfin comme il le disait, enfin comme tu le disais, c'est peut-être maladroit de leur part, mais de protéger leur intimité,
oui,
je dirais.
De toute façon, quand t'écris, tu mets tout dehors.
Hein. Ou est-ce qu'ils n'ont pas,
c'est...
Ils n'ont pas changé de cap.
Comme dit Darida, moi je suis tombé par hasard, hein, sous une vidéo hier où quelqu'un de connu expliquait la raison pour laquelle il a commencé à mettre de la distance avec ses fans.
Donc, tu peux mettre de la distance, mais t'as pas besoin d'être arrogant.
Non, pas besoin d'être arrogant, je suis d'accord, il y a une différence. Mais il expliquait qu'en fait, si il n'avait pas mis un peu de distance, et je cautionne pas particulièrement, hein, il n'aurait plus de temps pour lui, en fait. C'est-à-dire que quand il est avec sa femme, en train de se balader, il va passer 4 heures dehors. Et il n'aura jamais de temps pour se ressourcer avec sa famille. Après, je
veux ça. C'est une grande célébrité.
Ouais.
Mais moi, un niveau plus local. Humble, quand j'ai commencé, j'avais quelques personnes qui aimaient me lire, qui s'imaginaient que ce que j'écrivais, c'était pour elles. Et les sexes en particulier. Et c'est devenu tellement grave qu'à un moment, il y a un moment où certaines personnes ne font pas la part des choses. Je n'ai pas envie de trop dire, mais parfois, en fonction de ce qui se passe dans ta vie, tu peux faire des projections et ça devient super dangereux pour un auteur. Le type là qui fait des trucs d'horreur, là, Stephen King, dans ses livres, il parle de ça.
Il y a beaucoup de vénus.
Il y a une femme qui le séquestre.
Et ça s'est vraiment passé.
Oui. Il pioche beaucoup dans sa vie à lui.
Oui, toutes les histoires qu'on a lues sur le bouquin, quand on explique l'écriture, on voit que tout est lié à notre vie. En fait, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi aussi. Alors, tu m'as posé une question tout à l'heure.
Oui. nous sommes mis à nu avec nos livres, donc ce serait bien.
Chacun son tour.
Moi, j'ai écrit plusieurs livres, ils sont tous là. J'ai écrit 14 livres, mais c'est quand je travaillais. Quand je travaillais, je n'avais pas de problème d'argent, donc je trouvais le temps d'écrire. Le week-end, je faisais que ça, du matin jusqu'au soir. Mais ces livres-là, ils n'ont pas été écrits en quelques années, ils ont été écrits... j'ai commencé à l'âge de 23 ans, 22 ans. Et un jour, j'ai commencé parce que une personne connue, que je ne citerai pas, m'a dit « Michel, écris ». Et donc j'ai pris son conseil, je lui ai donné la copie, elle m'a encouragé à continuer, donc j'ai continué. Mais quand j'ai envoyé le manuscrit à un éditeur français, il me l'a renvoyé recouvert de rouge. Et ça sentait la cigarette. Et il y avait deux pages dans lesquelles il m'expliquait que les problèmes d'identité, tout ça, c'est dépassé. Et que ta, mais qu'il serait intéressé si je changeais ta. Tant rien, j'ai pris ça pour un rejet. Et donc j'ai mis ça dans un placard. J'ai continué d'écrire pour moi. Mais j'ai rien fait avec tout ce que j'avais. Et un jour, alors que je m'ennuyais, en 2016, j'ai fait que déballer tout ce que j'avais dans les placards et j'ai fait que publier ça. D'un coup. Et donc, la même année, j'ai dû sortir 2, 3, 4 livres, je ne sais pas. Et après, j'ai continué. Mais j'ai toujours eu peur de la publication traditionnelle. Et les rares fois où j'ai eu des contrats, qu'on m'a proposé des contrats, j'ai flippé. Après 6 mois, quand ils ne m'ont pas fait ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire, et j'ai résilier le contrat. Parce qu'en fait, perdre ses droits sur son livre, ça fait super peur. Pour 10%, 7%, 15% maximum, c'est super effrayant.
Ça fait plus mal que la critique.
C'est ça. Ça fait super mal. C'est surtout quand l'éditeur te dit que c'est plus ton livre.
C'est ça.
Et que tu n'as rien à décider. Il va décider de la pochette, il va décider de ci, il va décider de ça. Ça fait peur. Donc j'ai annulé plein de contrats, j'ai succombé, parce que je me suis dit, c'est comme ça que je me fais connaître. Et j'ai laissé un éditeur me publier. Il m'a dit, mais vous voulez que votre livre soit grand nombre? Laissez-nous faire. J'ai laissé faire, j'ai eu tort. Pourquoi? Parce que j'ai pas été payé. Mais sinon, le dernier s'appelle Noir Pays.
Paul II.
Et ça, c'est, tu veux savoir de quoi?
Ouais, je veux savoir de quoi il parle. Ouais, il parle de quoi?
Je ne vais pas parler de tout ça parce que sinon je vais vous embêter trop longtemps. Il parle d'un jeune Guadeloupéen, d'un Guadeloupéen, et quand il est jeune, s'en va. Parce qu'il souffre dans son pays. Enfin, c'est pas un Guadeloupéen en fait. C'est un fond de chouï. Son pays, c'est un fond de chouï.
D'accord.
Et il souffre dans son pays. Il ne comprend pas pourquoi il a des relations très compliquées avec sa mère. La vie est très dure pour lui et il parle. Il n'y a pas de travail. Il s'exile pour réussir sa vie. Qu'il réussit. Il devient avocat, il est à New York. Mais là-bas, un plafond de verre. Et au moment où il se cogne contre ce plafond de verre, il commence à être nostalgique, il veut rentrer chez lui. Il prend de l'âge, sa santé périclite, il veut rentrer chez lui. Et pour rentrer chez lui, il va vendre son logement. La vente de son logement fait de lui un millionnaire. Donc maintenant, il a tous les moyens de rentrer chez lui en beauté. Et il ne veut pas qu'on sache qu'il est riche. Et donc, ni la femme qu'il fréquente, ni sa mère ne doivent savoir qu'il a de l'argent parce qu'il a trop peur de ce qui se passerait si tout le monde savait. Il veut vraiment voir les gens et son pays comme son pays est. Et il veut décider, il veut investir chez lui, mais avant d'investir, il veut savoir comment ça fonctionne, comment ça marche. Et là, le choc de sa vie. Son pays s'appelle la Fangchourie, donc il n'y a que les Fangchouriens qui pratiquent le Fangchou. Et je ne dirais pas plus.
Moi, j'ai une question. Je peux poser une question? Je vais te poser une question. Qu'est-ce qu'il y a de toi, du personnage?
Waouh. Qu'est-ce qu'il y a de moi, du personnage? Ben, je crois que je me suis beaucoup inspiré de mon vécu, mais pas que. Parce que j'ai un ami d'origine guadeloupéenne, américain, qui est avocat à New York. Donc j'ai piqué son identité pour mon personnage principal, et j'ai piqué l'identité de plein d'autres personnes, et j'ai fait un amalgame avec mon histoire, leur histoire, avec plein d'histoires de Guadeloupéens que j'ai connus aux États-Unis, hein, pas beaucoup, hein. Et on ne connaissait pas beaucoup, parce que c'est pas là où on va, qu'on commence à partir travailler à l'étranger. Mais nous sommes là, et nous sommes là depuis 1915. Simplement qu'on a été américanisé à un tel point que quand on rencontre quelqu'un qui a un nom guadeloupéen et qui est complètement américain, il nous explique que c'est son grand-père, son arrière-grand-père qui était venu là. Et donc j'ai fait ces recherches-là. Et on a. Et j'ai pris leur histoire et j'ai créé une autre histoire qui parle de l'Amérique moderne, du retour au pays. Donc c'est une question d'identité, de retour au pays, de refaire la paix avec le passé, avec sa maman. Et je ne dirai pas plus. Mais ça, c'est le dernier bouquin. D'accord. J'ai répondu à ta question.
Oui.
Je vais arrêter ça.
J'ai essayé la faute.
Alors, quel conseil est-ce que vous donneriez à quelqu'un qui souhaite publier son premier livre?
Moi, je peux. Je conseillerais déjà d'écrire au kilomètre, d'écrire ce qu'il a envie d'écrire sans appréhension aucune et sans jugement. C'est-à-dire sans, ouais, écrire ce qu'il est, ce qu'il prendre des notes, avoir des post-it, avoir un carnet, laisser se construire son histoire, laisser germer son histoire comme on porte un enfant. Enfin, je suis mal placé pour le dire, mais bon, comme on porte un enfant, parce que je ne peux pas en porter.
Non, mais ça, c'est bébé, hein.
Ça c'est mes bébés, et surtout éviter le syndrome d'imposteur, de se dire. Pourquoi j'écrirais, il y a tellement de bons auteurs. Ben, je dis que les auteurs, souvent, c'est comme les restaurants. Il y a beaucoup de restaurants qui font la même chose, mais ils ne le font pas de la même manière. Donc à partir de là, il faut s'autoriser, parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne mesure jamais l'impact que son livre aura.
Il faut arrêter de se comparer. Là.
Voilà. Il faut arrêter de se comparer, mais on ne mesure pas l'impact que son livre aura. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un futur écrivain d'Heroic Fantasy, quand il va lire le livre d'Iliac, va se dire, mais moi aussi, j'ai envie de créer un monde. Quand il lira la bougie, il y a une femme qui va... Tu vois, ça va révéler quelque chose en elle. On a cette responsabilité là également. Donc lancez-vous et puis lancez-vous.
C'est un article. Moi, la première fois que j'ai écrit, la première histoire que j'ai écrite, m'a fait énormément de bien parce qu'elle m'a permis de me libérer d'une souffrance. Chronique de Noir à la dérive, c'est vraiment l'histoire d'un jeune, pas de projet pour sa vie après ses études. Et c'était moi. Et écrire cette souffrance, ça m'a libéré pour pouvoir appréhender le monde autrement. Et donc, ne serait-ce que pour vous-même, pour vous faire du bien, écrivez. Conseil.
Alors, pour moi, j'en ai deux. Deux que je m'applique tous les jours, à chaque fois que je sors un ordi, un carnet, une feuille. On bannit le nom. N-O-N, ça n'existe pas.
Pas de censure.
Ça n'existe pas, on se censure pas. Si on a envie d'écrire ça, on écrit ça. On verra si on garde ou pas plus tard.
Si il y a des photos d'orthographe.
C'est ça. On met, on prend. C'est ensuite qu'on va faire la soupe. Mmh. Et surtout, démarrer sans se dire, alors il me faut un livre de tant de pages, telle taille, telle couleur, tant de chapitres. Non, on écrit.
Il faut être libre.
Voilà, ça rejoint ce qu'on disait, écrire au kilomètre. J'ai envie d'écrire, j'écris ça, je ne me prive pas. Je me donne du temps pour écrire, même si c'est deux lignes, je le fais. Voilà, le but c'est, le nom on l'évite complètement. Il ne faut surtout pas se frustrer là.
On ne jette rien.
Rien.
Ça peut être très mauvais, mais on le garde. On n'est pas au stade où on fait des trucs.
Moi ça m'est arrivé de mettre de côté. En me disant, ça c'était mauvais, un chapitre entier. Et puis peut-être deux mois plus tard, de me dire, ah non, mais il y avait quelque chose d'intéressant en fait dedans. Je vais récupérer, je vais piocher, je remanie, je sors ce que je veux sortir. Et finalement, non, j'ai quelque chose de très intéressant. C'est ça. Exact. Donc, non, on jette pas et on se prive pas. On n'est pas là pour se frustrer.
On n'est pas là pour prendre des décisions sûres. On est là pour produire.
C'est ça.
Le plus possible. Et toi, tu as des conseils?
Je dirais, en fait, ne pas se prendre au sérieux. Ne pas se mettre la pression.
Ouais.
Parce que je me suis retrouvée dans ce cas. Je me mettais trop la pression et j'écrivais pour écrire. Et ça devenait un fardeau. Je me disais, à la mi-juillet, je veux que ce soit ça. Après, je passe sur autre chose et tout ça. Mais je me forçais à écrire. Les idées étaient peut-être... Parce qu'on m'avait conseillé, écris même quand on n'a pas envie. Mais comme quand on se met la pression, il y a des choses... Ça fausse tout. C'est plus aussi fluide.
Ouais.
Et revenir sur tout un chapitre entier, des fois, c'est compliqué parce que tu te dis... Tu t'es dit, j'ai 10 chapitres, je veux faire 10 chapitres, par exemple, comme tu disais, et retirer tout un chapitre, alors que...
Ça fait mal,
parce qu'il y a déjà des choses de ce chapitre-là que tu as mis dans le chapitre 10, par exemple. Donc, oui, mais il ne faut vraiment pas se prendre au sérieux, c'est... Et on n'a rien à perdre, en fait. C'est une aventure, c'est quelque chose qui devrait être... c'est sa source de plaisir de ne pas se prendre la tête et d'y aller.
Ouais.
Et
moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit parce qu'on parle des personnes qui commencent.
Mm-hmm.
Un moment dans l'écriture, ça devient une discipline. C'est-à-dire qu'on s'assoit et on produit. Parce qu'après un certain nombre de récits, on ne peut plus attendre l'inspiration.
Mmh.
On sait que c'est du travail et qu'on doit avoir une routine, s'installer pour produire. Et il y a des techniques, des façons de faire pour produire du texte. Mais on change de perspective. Mais dans un premier temps, ne pas se dire non, ne pas s'interdire, ne pas se mettre la pression, ne pas se mettre de limite, ne pas prendre de décision, ne pas évaluer ce qu'on écrit du tout. et être dans une démarche de production. Tu penses, ah, tu écris ce que tu penses, c'est pas grave, plus tard tu vas déblayer. Parce que écrire, c'est réécrire. Et ce que vous voyez dans le livre qu'on vous présente, en fin de compte, c'est une version revisitée combien, beaucoup, beaucoup de fois,
oui.
D'un bouquin qui était complètement différent à l'origine.
Surtout que quand on écrit un livre, en fin de compte, je l'ai connu avec le vieux nègre, la fin a changé 5 fois en cours de récit. Avant de trouver la fin qui me plaisait réellement, la fin a changé 5 fois. Il y a des fins qui étaient complètement nulles. Il y en a qui étaient un peu audacieuses, et celles, je l'ai retrouvée parce qu'à un moment donné, je me suis autorisé à écrire, autorisé à approcher le récit, amène la fin. Donc souvent, on peut se mettre la pression justement, mais il ne faut pas oublier que d'abord, à l'origine, on écrit pour se faire plaisir.
Excellent. On revient dans quelques minutes. Appelez-nous 06 90 18 42 03.
Pour une journée sans stress, branchez-vous sur AIS Radio 105.8 FM.
Décryptage. Nous là pour inspirer les autres. Les autres qui savent donner un livre à nos autres. Pour faire une sortie. Alors, pendant la pause, on a parlé à deux reprises de choses intéressantes. Là, on disait à quel point le cinéma et le théâtre seraient pauvres sans l'apport des auteurs. Parce qu'en fait, les films que vous regardez proviennent des écrits de quelqu'un. D'accord ? Que ce soit des scripts produits par des auteurs professionnels qui sont payés pour, ou bien que ce soit des romans qui nourrissent des histoires à la télévision ou bien au cinéma. Il y a toujours une histoire publié à la base, ou souvent en tout cas, d'accord. Et dans la deuxième pause, on a parlé de quoi? On a parlé du besoin de se livrer, de s'ouvrir complètement, de prendre le risque d'être nu, de dire des choses qui dérangent, qui vous dérangent, de vous aider moi là. De prendre le risque de se montrer.
Ouais, d'être soi-même.
D'être libre d'être soi-même, de choquer.
Choquer, déranger. Choquer, déranger.
D'écrire à la marge, en fait.
Ouais, exactement ça.
Ce type de risque, en fait, ça devient ennuyeux pour les lecteurs.
Donc on est censé apporter quelque chose de différent. Enfin, je veux dire, moi, quand je rentre dans une bibliothèque ou une librairie, je me rends compte du nombre de livres que je n'ai pas lus. Tellement il y en a. Et certains ont des succès alors qu'ils sont dans des genres différents. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un public pour chacun des livres qui a été écrit. Donc à partir de là, il faut que chacun prenne sa chance et offre ce qu'il a à offrir pour nous divertir. C'est ça l'essentiel.
Il faut oser provoquer, il faut oser choquer, il faut oser connecter.
Il faut oser être
ça qu'on connecte.
Oser être soi-même aussi.
Mm-hmm. Oser être soi-même, c'est tout ce qui est beau.
Pas se museler. Ah oui, J'aime pas ça, je dis j'aime pas ça.
Ouais, et donc tu prends position.
C'est ça.
Ça plaît, ça plaît pas.
Ça plaît, ça plaît pas, c'est moi.
Ça,
c'est comme ça.
C'est un point d'où arriver.
Une franchise. Une franchise de l'auteur.
Il y a des gens qui se cachent quand ils écrivent. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ça rend leur écriture insipide.
On a parlé au début, on a parlé de l'histoire de la différence entre la personne et l'auteur. Parce qu'il y a aussi de publier des livres de personnes connues, y compris quand forcément elles n'ont pas des choses à raconter, parce qu'on peut utiliser leur notoriété justement pour vendre le livre.
Exact.
Ça, c'est terrible pour la créativité. C'est terrible parce que c'est la même chose qui se passe dans le cinéma, parce que tu faisais le parallèle entre le cinéma et le livre, parce qu'en ce moment, on a beaucoup de franchises, de blockbusters, qui du 1 au 15, au bout du 5e, ça n'a plus de sens, mais on continue quand même, voilà. Parce que ça ramène de l'argent, et la créativité, la différence, n'y est plus. Donc, on a besoin de tous les auteurs et que tous les auteurs prennent leur page, écrivent dessus, livrent leur monde, parce que sinon on va arriver à un moment où on va tourner en rond.
Et en fait, soyons honnêtes, un livre permet à une culture de briller, aux gens de s'intéresser. Il y a des gens qui ont lu certains livres de certains auteurs qui n'étaient pas très connus, mais à cause de ça, ou grâce à ça, ils ont voulu connaître le pays.
C'est ça.
Et ça a été un facteur de motivation touristique.
C'est une façon de voyager.
Oui, ça encourage les gens à s'ouvrir à des choses auxquelles ils sont ouverts. Ça, qu'est-ce que ça peut faire? C'est économique aussi. Ça permet une activité, ça fait vivre les imprimeurs, ça fait vivre les illustrateurs, ça fait vivre...
L'idéal.
Oui, c'est une activité. Enfin... Et en même temps, ça permet à une famille d'avoir quelque chose qui lui permet d'ancrer son histoire.
Ouais.
Tiens, un tel est mort, mais il a laissé un livre, tu vois, ça va te rappeler
ton grand-père
et une partie de ton histoire familiale. Au moins, tu sauras ce que tu faisais, ton tonton.
Ça reste un héritage.
C'est un héritage. Oui. Donc, en fait, écrire, c'est bénéfique à tous les niveaux. Ça laisse un témoignage de votre passage. On a tout dit, non? Alors, maintenant, j'ai une question pour vous. Quels sont les plus grands défis que vous rencontrez en tant qu'auteur? Je commence avec Pam, maintenant.
Avec moi? D'accord. Ouais. Juste au moment, je voulais passer en dernier, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais dire? Quels sont les plus grands défis que j'ai? On a parlé tout à l'heure de... Il y a deux défis. Le premier, c'est à l'origine, franchir le pas. Parce qu'on peut avoir des complexes personnels qui se disent, bon voilà, au début j'écrivais des, je me disais, bon ben, tu pourras jamais écrire un livre. Parce qu'on se met des freins dans la tête, un livre c'est pour d'autres personnes, d'autres catégories, d'autres talents. Donc le premier écueil, ça a été celui-là que j'ai réussi à transcender en passant par les nouvelles. D'accord. Tu vois, c'est déjà un peu, c'est moins gros qu'un livre.
C'est
un art spécial.
Parce que tout est condensé, donc tu dois être percutant très vite.
Et le deuxième défi, ça a été, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'écriture libre, mais moi je pense qu'il y a la dimension de liberté, mais aussi la dimension de discipline. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, sans se mettre la pression, comme tu disais tout à l'heure, c'est à partir d'un certain moment, j'écris ce que j'ai envie d'écrire, mais je me suis fixé une heure qui était sacralisée. C'est-à-dire, je me disais 6 heures du matin. Il faut aussi savoir à quel moment on est le plus inspiré. Il y a des gens qui sont du soir, il y a des gens qui sont du matin. Donc, à partir du moment où on se connaît, on choisit son créneau où on est le plus inspiré, on écrit et on se fixe ça avec une cadence et ça permet d'avancer sur son projet.
Si on bloque, on change l'horaire.
C'est ça.
Mais c'est un autre moment, il faut tester. Donc, les défis pour toi,
C'était à quel lieu de se dire que pourrais-je écrire un livre? Est-ce que je suis à la hauteur du défi? Et le deuxième, c'était de savoir comment je peux mettre en place une méthode qui me ressemble pour que je sois le plus créatif possible.
C'était ça.
Et puis le tout premier défi, c'est de trouver un éditeur. Il y a aussi celui-là. Voilà, c'est ça.
Ça, c'est un défi pour tout le monde. Maintenant,
mon plus grand défi, je dirais que c'est moi-même. C'est moi-même parce que du coup, c'est vraiment ne pas céder à la procrastination. Oui, exact.
Ne pas faire comme ces gens qui disent qu'on sera à la retraite, je vais écrire.
Voilà, c'est toujours remettre les choses à demain et tout ça. Et c'est vraiment ma peur de briller, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Il y a des gens, en fait, c'est ça. Oui, c'est bah, ça, comment dire, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis au niveau des auteurs que je lis, par exemple? Et est-ce que le message que j'ai envie de transmettre, est-ce qu'il sera perçu, compris? Et est-ce qu'il sera accepté? C'est vraiment c'est la peur de se d'être vu partout. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors que quand on passe, c'est moins ça, quand on passe dans un couloir et personne ne nous reconnaît, c'est moins effrayant, je trouve, que quelqu'un qui sait ce que tu fais et a peut-être quelque chose à dire.
Carmela, je vais dire quelque chose de brutal.
Oui.
Et c'est pas contre toi, c'est en général.
Oui.
À toutes les questions que tu as posées, la réponse c'est non. Non, je ne suis pas au niveau. Non, 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 non. Mm-hmm. Et alors
exactement.
On s'en fout. Ouais. Moins laide, moins là. Comme il dit un poudi, moins qu'a dit ça, moins il poudi.
C'est ça.
Forcément quelqu'un.
Oui, c'est exactement ça.
Ça va résonner.
C'est pour ça que je dis que mon premier défi, c'est moi-même. C'est arrêter avec cette histoire. De toute façon, je me suis déjà répété et dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre, dans tous les cas.
Bravo.
Donc, y aller et ne pas se mettre des freins.
Jean, il est tellement, tellement facétieux. Là où j'étais avant, les gens disaient, les noirs disaient, et c'est horrible, là, je vais le répéter pour que vous compreniez, que la meilleure façon de cacher quelque chose à un noir, c'est de le mettre dans un livre.
Ah, c'est...
Moi, j'ai trouvé, bon, c'est rigolo, et en même temps, c'est triste, et en même temps, c'est un peu raciste, mais en même temps, il faut dire que on peut écrire plein de choses. C'est pas parce qu'elles sont écrites que les gens vont les lire. Bon, déjà, cette peur d'être vu, les gens qui te voient, te voient.
Bon,
les gens qui me lisent, mais c'est parce qu'ils veulent me lire. Il y en a qui font tout pour ne pas me voir et pour ne pas me lire. Ils ont accès. Donc ça veut dire que tu décides plus. Mmh. Tu vois, c'est plus toi qui décides. Mais c'est pas grave. T'es d'accord ou pas?
Oui. Mmh.